Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International, de Télépaese. En ce jeudi 10 septembre, une très bonne fête à toutes les Inès. Et vous en tout Suzara Adalberto. Et Kuba Madinale, et Principia Guzzi.
Bonjour, salut à tous.
À l'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
Si vous en prégui.
Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous en ce début de matinée. Hein, bon réveil, bon, impeccable. Voilà, c'est votre matinale, comme d'habitude, du lundi jusqu'au vendredi, sur Télépaese, sur Radio Corse International, sur les réseaux. Voilà, donc en ce jeudi 10 septembre, on va débuter notre matinale avec de la météo, de l'information avec Philippe Jam. Nous aurons des invités aujourd'hui, on parlera de Camerata Figarella. Nous aurons aussi André Casabianca qui va nous emmener du côté de Patrimonio pour retrouver un artiste peintre. Et nouvelle rubrique aujourd'hui aussi, pour les amateurs d'informatique, nous allons retrouver nos amis d'Emao avec leur rubrique Magnum. Voilà, donc pour... un petit point sur la matinale de ce jeudi. Mais on débute avec la météo avec Philippe Jam ainsi que l'information de ce jeudi.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera encore instable ce matin puisque la Corse est toujours passée en vigilance jaune pour le phénomène orage. Le soleil va prédominer, certes, mais des averses sont toujours d'actualité, notamment en Haute-Corse, dans le Cap-Corse ou encore en Castaniche. Le vent d'ouest à sud-ouest sera parfois modéré à assez fort aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les températures maximales seront en légère baisse, elles perdront quelques degrés, elles seront comprises en mi-journée entre 20 et 29 degrés. La Payotte, le cabanon bleu sur la plage de Saint-Cyprien, sur la commune de Dzons, en Corse du Sud, a été ravagé par un incendie tôt hier matin. Un problème électrique serait à l'origine du sinistre, mais les circonstances demeurent floues. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour destruction par moyen dangereux. Les pompiers qui ont dû lutter également contre l'incendie hier à Tavera, où 3 hectares ont été parcourus par les flammes dans le secteur du col de Scalella. Après qu'un habitant de Moltifau a tiré sur la voiture d'un autre villageois alors que celui-ci était dans le véhicule, le parquet de Bastia a ouvert une enquête du chef de tentative de meurtre. L'auteur présumé des faits a été placé en garde à vue, en détention provisoire, dans l'attente de son jugement en comparution immédiate ce jeudi. Un différend d'ordre privé, un conflit à propos d'une clôture, serait à l'origine des faits. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné un couple domicilié en Corse pour avoir perçu 263 000 euros de subventions agricoles européennes au titre d'un élevage bovin qui n'a jamais existé. Les deux prévenus avaient déclaré à l'agence de services et de paiement, l'ASP, détenir un cheptel bovin ouvrant droit à des versements. L'un des deux prévenus a également été condamné pour faux et usage de faux, puisqu'il avait présenté de fausses factures à l'ODARC. Les deux prévenus ont été condamnés aussi à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour l'un, 6 mois avec sursis pour l'autre. Une société a également été condamnée dans ce même dossier. Retour presque à la normale pour Air Corse, car hier une bonne partie des rotations ont pu être assurées grâce à l'affrètement de 3 avions. La majorité des ATR de la compagnie étant toujours cloués au sol en maintenance. Seuls 4 vols ont finalement été annulés sur les aéroports d'Ajaccio et Bastia. Face à cette situation, à l'initiative du syndicat des pilotes, un conseil social et économique s'est tenu hier après-midi, mais rien n'a filtré des discussions. À l'issue du comité de la ressource en eau de la Haute-Corse qui s'est tenu hier, la préfecture a décidé de reconduire toutes les mesures de vigilance renforcées mises en place lors de la dernière réunion il y a une semaine. La situation hydrique demeure en effet préoccupante dans le département avec seulement 56% de la pluviométrie moyenne enregistrée cet été, des sols très secs et des consommations toujours élevées. Selon la préfecture, la situation est particulièrement critique en Balagne, dans le Cap-Corse et surtout en pleine orientale où les stocks n'atteignent que 12%. La préfète de la Haute-Corse appelle à poursuivre les efforts et renforcer les économies d'eau. Le prochain comité de la ressource en eau se tiendra le jeudi 17 septembre. Enfin, le service du patrimoine de la ville a présenté hier la version bastiaise des journées européennes du patrimoine qui se tiendront du 18 au 20 septembre prochain dans toute la ville. Photographie et patrimoine en péril seront les thèmes de cette édition 2026.
Merci Philippe, on va vous retrouver dans un petit moment donc avec nos invités. Pour l'instant, on va faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics hippiques du jour avec Rémi.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Eliman, qui ne devrait pas sortir des trois premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la seconde, le 7, Jamaica Fedo devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 8, Nice Boy du Lupin. Bon jeu à tous.
Merci Rémi pour tous ces pronostics, et puis je vous rappelle que ce dimanche, c'est Casator, hein, il faut se retrouver pour... On se retrouve sur Casator pour les courses hippiques, hein, donc à vous de voir si vous voulez venir, c'est à partir de 14h, avec une journée qui va être assez agréable, avec des animations, Chapanay Douto. Hein. On se fait un petit horoscope pour poursuivre cette matinale avec la charmante Paxi.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre journée aura des imprévus, il va falloir s'adapter à ce qui se profile à vous. Votre journée ne va pas du tout se passer comme vous aviez pu vous organiser. Faites avec les événements que la vie vous apporte. Les taureaux, vous allez avoir une sortie ou une activité en extérieur qui va vous changer de votre habitude. Ça fait pas de mal de faire des choses un petit peu différentes, des fois. Les gémeaux, il faudra peut-être vous concentrer un petit peu sur votre santé. N'hésitez pas à faire des check-up, une consultation avec un médecin si vous ressentez quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé. Prenez soin de vous. Les cancers, les gens vont certainement avoir des choses à dire sur vous par rapport à des bons résultats que vous avez pu avoir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie personnelle. Si vous êtes arrivé à un accomplissement, ça se saura autour de vous. Les lions, la nouveauté, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau qui doit démarrer, va être retardé parce qu'il y a encore des détails à arranger. Faites preuve de patience. Les vierges, il peut y avoir autour de vous une femme qui fait preuve de commérage ou sinon simplement des petits papotages assez légers autour. Mais bon, ne prêtez pas attention à ces choses si ce ne sont pas des sujets qui vous intéressent. Les balances, faites preuve d'attention au niveau des papiers. Il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas forcément toujours proches de la vérité. Peut-être qu'on essaie de vous cacher certaines informations qui sont certainement très 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 importantes à savoir. Donc soyez curieux, creusez un petit peu vos recherches pour savoir ce qu'il en est réellement au niveau de vos paperasses. Les scorpions, il sera nécessaire de vous reposer aujourd'hui si vous vous sentez fatigué, que vous avez un coup de mou ou que vous avez énormément cumulé ces derniers temps. Prenez soin de votre santé également et ne tirez pas trop sur la corde. Les sagittaires, vous trouvez des solutions même face aux pièges que des gens peuvent essayer de mettre sur votre route. Ils ne vont pas vous empêcher d'avancer, vous avez déjà largement de quoi faire pour réussir. Les capricornes, le temps va vous paraître long aujourd'hui, mais bon, la vie devrait vous mettre quand même un petit peu d'animation. Ça restera des choses assez superficielles, mais d'une manière générale, cette journée va vous paraître longue, pas intéressante. Ça arrive, c'est comme ça. Faites au mieux, occupez-vous, lisez un bouquin, quelque chose que vous aimez. Ça déjà, ça va aider à faire passer un petit peu cette journée. Les Verseaux, vous aurez certainement envie de vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne, une activité, un passe-temps. Et ce n'est vraiment pas plus mal, ça fait du bien aussi de se libérer un peu l'esprit. Les Poissons, vous vous sentirez bien d'une manière générale. Mais il y a des choses qui peut-être ne sont pas encore finalisées, qui manquent d'aboutissement et ça peut rester dans un coin de votre tête. N'allez pas tout de même vous miner le moral à cause de ce genre de détails. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à bientôt.
Merci Paxi, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Alors, on va tout simplement aller voir nos amis de Camerata Figarilla. Hein, vous savez, ce festival qui débute donc dans le Cap Corse et puis qui après vous retrouvez un peu de partout sur l'autre île. Et ce sont nos invités aujourd'hui sur le plateau de Radio Corse International.
Notre invité aujourd'hui, Ange Sierakowski, à l'occasion de la 8e édition du Festival de musique classique et traditionnelle Camerata Figarilla, qui aura lieu du 18 au 27 septembre. Ange, bonjour.
Bonjour.
Alors, un petit rappel de ce qu'est ce festival, cette manifestation Camerata Figarilla.
Alors, le festival Camerata Figarilla est né maintenant il y a 7 ans, c'est la 8e édition. Et c'est un festival itinérant qui réunit des musiciens dans le village de Figarilla, mais des concerts se produisent un peu partout dans le Cap Corse et au-delà dans le Chismonte. Et c'est un festival qui est un festival de musique classique et de musique traditionnelle, c'est-à-dire de musique écrite, de la grande musique qui a jalonné l'histoire de notre Europe, mais aussi de la musique traditionnelle, la musique de l'oralité, la musique de la proximité, la musique des danses, la musique du sacré. Et ces deux mondes se rencontrent dans plus de 16 concerts. Et quasiment tous les 2-3 jours, c'est un programme différent qui est joué dans un lieu différent et qui affronte des thématiques différentes avec des artistes qui viennent parfois de très loin, parfois de très près.
Justement, comment se fait la sélection des artistes ?
Alors, les artistes, l'idée, c'était un peu d'aller, je dirais, à rebours de la formation traditionnelle d'un festival, c'est-à-dire d'avoir des artistes qui viennent de manière... En utilisant un cliché, on disait qu'il arrive le lundi, qu'il joue le mardi et qu'il repart le mercredi. L'idée, c'était d'accueillir les musiciens sur un temps plus long. Une grande partie d'entre eux sont accueillis bénévolement par des habitants du village. Et ensuite, ils ont la possibilité de travailler ensemble, ce qui crée aussi des rencontres, à la fois des rencontres entre musiciens qui ne se connaissent pas, mais qui peuvent avoir des liens de langage musical, mais aussi entre des artistes corses et des artistes européens. La sélection se fait pour chercher, je dirais, des éléments qui sont à la fois au plus haut niveau possible dans leur domaine de compétences. Nous sommes à la recherche de compétences, mais aussi des musiciens qui sont ouverts à l'idée de passer un temps plus long dans un même lieu, de s'engager aussi pédagogiquement. Les musiciens qui viennent et les artistes travaillent en collaboration avec les écoles des villages concernés, mais aussi avec le conservatoire Henri Thomas, qui, je dirais, est la grande structure de formation musicale en Corse. Et donc, c'est très important que les jeunes musiciens ici en Corse puissent rencontrer les artistes qui viennent parfois de loin.
Alors, vous le disiez, il y a une dizaine de villages. Ça anime aussi le village. Cette rencontre entre c'est passionnant aussi comme démarche, comme initiative.
Absolument, c'est aussi ça ce qui nous plaisait, hein, c'était de sortir de notre zone de confort aussi, d'aller dans des autres villages, dans des autres rudiones. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant et un plaisir, et c'est déjà un plaisir de travailler avec, alors un mot qui est souvent très utilisé, mais les forces vives, oui, qu'on trouve dans les différents villages qui sont très actifs. Hein. Il y a un tissu associatif assez extraordinaire en Corse. Et donc, voilà, c'est pour nous très important de construire ces concerts avec des partenaires, je dirais, sur place. Quand nous sommes à Tchervion, nous travaillons avec les DSEC. Comme nous sommes à Brand, nous travaillons avec les confréries du village, avec d'autres associations un peu partout qui permettent, je dirais, de co-construire la programmation du festival aussi en répondant aux besoins des habitants.
Alors, il y a une douzaine de villages, hein, de Rolia à Corté, passant par Lourdes, Porreto, Castelourando, Pieve di Lota, Ville di Petrabugne, Prunelli di Viumorbo, Pigna, Nonza et Tchervion, comme vous le disiez.
Et cette année, même Borgo, je vous interromps.
Et même Borgo, c'est vrai. Oui, il y a Borgo aussi. Alors, il faut signaler que c'est des concerts gratuits ou entrées libres. Hein.
C'est ça. Alors, l'idée, c'est que ce sont des... Alors, il y a trois... Il faudra regarder dans le détail dans le site internet et dans la programmation, mais il y a trois concerts qui sont vraiment gratuits, notamment le concert au musée de la Corse à Corté, mais ensuite les autres concerts sont à entrée libre à partir de 5 euros, et on propose, c'est une formule qu'on a copiée sur d'autres festivals, qu'on trouve sur le continent, on propose au public de choisir leur tarif entre 5, 12 ou 20 euros, selon leurs moyens tout simplement, ou à la sortie du concert par rapport à la qualité de ce qu'ils ont écouté.
Alors un petit mot sur la programmation, je sais qu'il y a déjà une célèbre
violoncelliste. Voilà, il y a une célèbre violoncelliste, Ayung Choi, qui fait son retour, qui a été venu assez brièvement il y a 2 ans, et qui est une violoncelliste coréenne mais née en Allemagne. Et qui fait partie voilà, du top 5, top 10 des violoncellistes dans le monde. Alors, j'aime pas trop utiliser ce genre de hiérarchie pour la musique, mais c'est vrai qu'elle a été primée au concours Reine-Elisabeth, qui est un concours très important à Bruxelles, qui se déroule de manière cyclique, hein, un peu comme la Coupe du Monde. Et elle a eu le premier prix en 2022 et qui a propulsé sa carrière. Voilà. Et typiquement, c'est le genre de profil d'artiste qui a une carrière, je dirais, très institutionnelle dans la musique classique. Elle se produit à la Philharmonie de Berlin, Philharmonique de Los Angeles, dans des festivals un peu partout dans le monde, de l'Afrique du Sud au Japon. Mais comme tous les musiciens, elle a aussi besoin de moments, je dirais, de rencontres, de partage, être parfois aussi un peu plus proche du public, plus proche des jeunes. On a peu la possibilité de faire de la pédagogie quand on a ce genre de carrière. Donc elle vient avec plaisir et elle sera en concert dans trois villages. Elle sera en concert pour le programme d'ouverture, excusez-moi, à Lourdes le 18 septembre, qui est un concert où elle jouera la sonate Arpeggione de Schubert, qui est une œuvre magnifique qui avait été conçue pour un instrument dont on a complètement perdu les traces. Donc du coup, le violoncelle a repris le flambeau de jouer cette pièce, une pièce fantastique. Et ensuite, elle jouera également à Borg, un quatuor avec piano de Brahms, écrite sur l'histoire de Werther de Goethe. Une pièce assez dramatique mais très virtuose où elle jouera en compagnie d'un pianiste roumain qui s'appelle André Gologan et une violoniste italienne Chiara Sanicandro, aussi également très réputée. Et elle jouera enfin à Nantes-la-Ville, et donc bien quatre concerts et pas trois, dans un programme qui s'appelle Encounter Point, qui est un peu une création du festival, qui met en lien la musique de Jean-Sébastien Bach et de Nina Simone. Alors vous me direz, c'est un peu étonnant, mais il faut savoir que Nina Simone, qui est née à la fin des années 30, commence sa carrière comme une pianiste jazz. Une pianiste jazz, ça semble évident, comme une pianiste classique. Et elle fera même une formation à la Juilliard, une école prestigieuse de New York de classique, financée par la communauté des habitants autour d'elle, dans son quartier. Et ensuite, elle présentera le concours d'entrée au Curtis Institute à Chicago, qui est une école très prestigieuse, et elle sera recalée. On va dire que dans le contexte de la ségrégation de l'époque, c'était un peu difficile pour une pianiste noire d'approcher le monde de la musique classique. Et c'est en finançant ses études, parce qu'elle n'avait pas perdu espoir de devenir pianiste classique, qu'elle commence à chanter dans des bars et dans des clubs. Et donc, on va faire un concert sur le lien entre la musique de Bach, qui a énormément inspiré la musique de Nina Simone.
Alors, donc, une quinzaine de concerts, 16, je crois, au total, et avec des moments forts, comme par exemple l'ouverture.
Exactement. Alors, il faut savoir que cette ouverture dont on vient d'évoquer un mot maintenant...
Elle aura lieu le 20, en fait, deux jours...
Alors voilà, on va dire que c'est un long week-end d'ouverture. On commence le 18 à Lourdes et ensuite on a un concert le 19 à Borg et le 20 on a une fête qui sera dans le village de Porreto. Et en général, tout le premier week-end est dédié à un anniversaire qu'on fête cette année, plus exactement le 3 octobre, mais en 2026, pour les 800 ans de Saint-François d'Assise. Et donc pour ce fait, en collaboration avec les rencontres polyphoniques de Calvi, nous avons invité Micrologus, qui est un ensemble italien spécialisé de musique du Moyen-Âge, dirigé par Patrizia Bov, une chanteuse extraordinaire, et qui vont présenter un programme sur la musique au temps de Saint-François d'Assise. Et vous me direz, quelle était la musique au temps de Saint-François d'Assise ? On n'en sait rien, eux non plus, mais ils ont fait un travail de reconstitution à partir des données musicales qu'ils avaient sur l'époque, mais aussi à partir des textes du Cantique, et avec un travail sur, plus généralement, le rapport entre Saint-François, la nature et le monde animal.
Alors, on parlait de l'ouverture, il faut parler de la clôture aussi, que là aussi, c'est un beau programme.
Absolument.
Ça sera à Figaré, là, en l'église.
Exactement, ça sera à Figaré, là, dans l'église, le 27. Et en fait, ça sera aussi l'occasion pour le public de voir un peu plusieurs choses qui ont été faites à l'intérieur du festival. Et notamment un programme qui nous tient à cœur cette année, qui est un programme qu'on a appelé La Banda, et qui est un hommage à cette formation hein, qui est entre la fanfare et l'orchestre d'harmonie, qui a jalonné l'histoire de la Méditerranée, et notamment du sud de l'Italie. C'est-à-dire, il faut imaginer que dans ces territoires qui étaient extrêmement ruraux, il y avait des armées qui traversaient ces territoires, et notamment les armées napoléoniennes qui sont arrivées, influencées elles-mêmes par les armées ottomanes, avec les premières fanfares, les premiers instruments avant. Et puis ces mêmes personnes ont intégré l'armée, comme beaucoup de gens des classes populaires, et sont revenus avec ces instruments dans leur territoire. Et avec ces instruments, ils ont créé des premiers petits orchestres d'harmonie, premières fanfares, et qui ont créé leur propre répertoire qui elles-mêmes ont influencé des grands compositeurs comme Giuseppe Verdi, comme Puccini et comme d'autres. Et en plus, ces petites bandes avaient une fonction un peu similaire aujourd'hui aux confréries encore, c'est-à-dire une fonction paraliturgique, c'est-à-dire qu'ils font la musique pour les fêtes patronales, pour les processions du Vendredi Saint et pour toute une série d'occasions. Et donc, nous rendons hommage à ce répertoire peu connu à travers une grande formation. Nous serons 14 instrumentistes, des cuivres, des vents et des percussions de très haut niveau qui vont jouer cette musique, retravailler cette musique et aussi faire un clin d'œil à la tradition corse à travers cette histoire.
Alors, des concerts, mais pas que, parce qu'il y a des conférences aussi.
Exactement. Il y a trois conférences qui sont gratuites pour le public, qui sont souvent en amont d'un concert. Donc, on invite le public à venir à la conférence, à boire un coup et puis après venir au concert. Dans les conférenciers cette année, nous avons Damien Delgros qui fera une conférence pour la phonothèque du musée de la Corse. Spécifique sur le répertoire sacré du Cap Corse, et cette conférence aura lieu à Porreto-Brando le jour de l'ouverture, le 20 septembre, en amont du concert. Ensuite, nous aurons une conférence de Jean-Christophe Litsch à Rogliano le 26 sur l'histoire de la danse, de la musique et, en plus, et plus généralement du jeu et de la fête dans l'histoire corse à partir du 15e siècle, en amont aussi du concert de Rogliano. Et nous terminerons le jour de la clôture à Figarella avec une conférence de Marc-Andrea Castellane et sur son ouvrage « Una storia di un canto corso ».
Alors, vous l'aviez évoqué en tout début d'interview, il y a aussi le côté pédagogique que vous privilégiez pour les enfants.
C'est ça. C'est-à-dire que l'idée, depuis le départ, même si évidemment il a ses contraintes logistiques et professionnelles pour une grande partie des bénévoles, mais l'idée était de placer le festival dans un temps différent que celui de l'été, que celui de la saison estivale, et de le placer à la fin du mois de septembre. Déjà, pour ne pas se marcher sur les pieds avec d'autres, mais aussi pour une raison simple, qui était celle qu'on voulait faire un lien pédagogique, notamment avec le conservatoire. Voilà, on a tous été, avant de devenir musicien professionnel, je le suis moi-même, des étudiants, et on sait à quel point c'est important et riche d'avoir des échanges avec des jeunes professionnels, des gens qui ont 10, 15 auditrices à réserver, mais on a plutôt une tranche d'âge élevée, et donc il faut qu'on soit en capacité de créer un intérêt dès le plus jeune âge. Donc on vient chaque année dans les écoles, des villages ou des communes que nous traversons, faire des projets pédagogiques, des spectacles, pour que, on espère, les jeunes en grandissant se disent « Tiens, je vais aller à un concert dans la caméra de la Figarella. »
Des vocations aussi.
Aussi, absolument.
On termine avec l'affiche.
Oui, nous avons une belle affiche que vous pourrez découvrir et qui est signée de Louis Sartor, qui nous a fait un cadeau de nous faire cette affiche. On lui a demandé et gentiment, elle l'a faite pour nous. Et c'est une artiste qui nous fait plaisir chaque année. Nous demandons à quelqu'un de peindre en fait une représentation d'un village avec des musiciens ou un lien entre un village et la musique. Et cette année, c'est donc Louise Sartor qui est une artiste assez connue, qui est d'origine corse de Castaniche et qui avait fait il y a 2 ans l'affiche de Roland Garros. Voilà.
Ange, merci beaucoup.
Merci
On
à vous.
On rappelle donc ce festival, 8e édition du festival de musique classique et traditionnelle Camerata Figarella. Ça se passera du 18 au 27 septembre. Merci Ange, à bientôt.
Merci.
Voilà, un beau festival à ne pas manquer. Magnum, c'est notre nouvelle rubrique avec nos amis des Mao.
Les enfants et les écrans ou comment prendre de bonnes habitudes. Salut à tutti. Aujourd'hui, on parle des enfants et des écrans. Fun fact, saviez-vous que déjà en 2024, plus de la moitié des enfants âgés de 7 à 17 ans posséder leur propre smartphone. Pour aborder la rentrée de manière sereine, voici quelques conseils inspirés de la parentalité numérique. COSAE, la parentalité numérique, c'est accompagner ses enfants dans leur vie connectée en les aidant à grandir avec le numérique plutôt que contre et sans se transformer en dictateur du Wi-Fi. Concrètement, ça signifie de les guider et de les protéger. L'enjeu, équilibrer les opportunités comme l'apprentissage et la créativité avec les risques, comme l'exposition à des contenus choquants, la sédentarité ou pire, l'addiction. Come femmo, voici 3 points pour protéger vos enfants des écrans. Premièrement, le choix de l'écran. Avant 10 ans, préférez un écran adapté à l'âge de votre enfant sous forme de jouet. À partir de 10-12 ans, adoptez un téléphone basique pour écrire un message ou appeler. À partir de 15 ans, en France, votre enfant a le droit d'aller sur les réseaux sociaux. C'est le bon moment pour lui offrir un smartphone. Et pourquoi pas reconditionner ? C'est moins cher et c'est écologique. À tout âge, trouvez une place pour déposer les écrans le soir et recharger les batteries. La nuit, activez le mode avion ou mieux, éteignez votre box. Le réveil, c'est avec un vrai réveil. Deuxième point pour protéger vos enfants, le temps d'écran. De 0 à 3 ans, les recommandations invitent à limiter fortement les écrans car le jeune enfant a surtout besoin d'interactions, de mouvements pour le développement. Donc, par exemple, utilisez un sablier visuel pour les plus petits. Pour les 3 à 6 ans, c'est maximum 1 heure par jour. Et c'est dès cet âge qu'il faut leur apprendre la règle des 4 pas. Les écrans, c'est pas le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre et pas avant le coucher. Entre 6 et 12 ans, on préconise jusqu'à 2 heures par jour maximum, sachant que le téléphone est interdit dans les établissements scolaires. Pour les ados, c'est à négocier avec des règles claires, comme établir une heure limite d'utilisation le soir, selon l'âge. Par exemple, pour un collégien, 19 heures. Enfin, troisième point, sélectionnez des contenus. Choisissez des jeux adaptés en vous servant de la classification PEGI et en évitant des comptes aléatoires qui produisent des contenus addictifs. Visitez des sites pédagogiques comme lumni.fr qui propose des vidéos et des jeux de la maternelle à la terminale. Ayoutou. Vous pouvez activer les paramètres de contrôle parental sur chacun des appareils concernés ou opter pour une application gratuite comme Family Link. Tous les liens seront sur notre site. Écoute, si t'es prête, t'y perds rien trat à numérica. Donc pour aborder la rentrée et partir du bon pied avec les écrans, 1. Adoptez un écran adapté à l'âge de votre enfant. 2. Fixez un temps d'écran et un horaire par rapport à leur âge. 3. Sélectionnez des contenus élaborés par des professionnels. 4. Pour vous aider, utilisez le contrôle parental. Évidemment, montrez l'exemple, parlez-en en famille et surtout ne culpabilisez pas. A ringrazia vi per la vostra ascolta. A presto.
On se fait un petit point sur les sorties de cette fin de semaine. Qu'est-ce que vous en dites ? Avec peut-être des idées de sorties.
10e édition du festival Libre Monde qui se tiendra du 11 au 13 septembre dans les jardins du Palais des Gouverneurs au musée de Bastia. À suivre les journées portes ouvertes du Spazio Gallurucchi. Envie de découvrir une nouvelle activité, de partager un moment convivial ou tout simplement de laisser parler votre créativité, venez rencontrer les intervenants, découvrir les ateliers et vous laisser tenter par de nouvelles activités tout au long de l'année. Voilà, n'hésitez pas, donc ces portes ouvertes au Spazio Gallurucchi à Biguglia. Une exposition qui se passe donc au Parc Galea, une Tagliola di Sulaccio, à savoir que ça va durer jusqu'au 25 octobre. C'est l'exposition « Le monde invisible des graines » et « Grane Girandolone » du Conservatoire botanique national de Corse. Exposition donc avec « Le monde invisible des graines », cette exposition vous invite à découvrir l'univers fascinant des graines, mais également la microscopie électronique. Côté musical, on s'en va cette fois-ci du côté du Tavagna Club, avec bien sûr, comme tous les ans, le Tavagna Club qui organise de très très beaux spectacles. Et ce 11 septembre, le concert sera donc donné par les Torracinta Brothers, les frères Torracinta, donc n'hésitez pas à y faire un petit détour donc, du côté du Tavagna Club. Côté musique, toujours concerto trio acoustique avec Diana Zaligedi, accompagnée de Raphaël Pierre au violon et Arnaud Giacomoni à la guitare. Et ça se passe ce vendredi 11 septembre du côté de la cour du château Malaspina di Belgude.
Voilà donc, à vous de voir, hein, vous avez de beaux spectacles donc, qui sont prévus pour cette fin de semaine. Les titres de l'information avec Philippe qui nous rejoint.
La Payotte, le cabanon bleu sur la plage de Saint-Cyprien, sur la commune de Zonza en Corse du Sud, ravagée par un incendie hier matin. Une enquête a été ouverte par le parquet pour destruction par moyen dangereux. Un homme qui avait tiré sur la voiture d'un autre villageois à Moltifao était placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement en comparution immédiate ce jeudi. Retour presque à la normale pour Air Corsica. Hier, une bonne partie des rotations ont pu être assurées grâce à un affrètement de 3 avions. La situation hydrique demeure préoccupante en Haute-Corse. Le comité de ressources en eau du département a décidé de reconduire toutes les mesures de vigilance renforcées mises en place lors de la dernière réunion. Et puis une quarantaine d'animations gratuites sont prévues du 18 au 20 septembre à Bastia dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Météo, du soleil en ce jeudi, mais attention, des orages et des averses sont toujours prévus en Haute-Corse, notamment dans le Cap-Corse, la Balagne et également en Castaniche.
Merci Philippe, rendez-vous demain. André Casabianca, ce sera donc un petit détour du côté de Patrimoine, du côté des domaines Orenga, pour rencontrer une artiste peintre.
Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca.
Nous sommes dans le vignoble et sur le vignoble d'Henri Orenga, mais exactement dans la salle d'exposition. Nous avons le bonheur de voir l'exposition de Sophie Poligny, une quinzaine de tableaux, tous différents, toujours magnifiques, toujours dans ce côté réel et irréel. Sophie est à côté de moi et elle va donc un petit peu nous guider, parce que l'objectif, c'est de nous guider. Voilà. Alors Sophie, on peut dire que c'est une exposition évolutive sur les paysages, sur un petit peu l'irréel et le réel. Vous avez un petit peu, comme à vos habitudes, hein, avec des couleurs très douces, très, très reluisantes aussi. Il y a un bonheur dans votre tableau. Alors, ce bonheur, comment vous l'avez organisé, évidemment, avec une palette, des pinceaux, enfin voilà.
Oui, non, ça, bien sûr, c'est, ça reste de la peinture, on est d'accord. Le médium est bien la peinture à l'huile, oui. Entre autres. Et comment ça s'organise? Ben, en fait, je démarre à partir de paysages que j'emmagasine, de balades, d'atmosphères, de lumière, de formes de nuages, de brindilles, de fleurs. Voilà, c'est un peu comme un herbier sauvage que j'essaye de mettre en place.
En fin de compte, il s'agit surtout de sensations. Alors, quand on vous écoute, parce que vous êtes très attentive. Bien entendu, le regard a son importance, ça paraît évident. Mais il y a quand même autre chose. Il y a aussi votre personnalité, évidemment. Vous la mettez en jeu aussi sur un paysage.
Oui. Alors, ma personnalité que je mets en jeu sur un paysage, on va dire que oui, je prends les images que j'emmagasine, je les archive et je les repositionne sur des grands formats. Voilà. Et après, je les mets en danger, en effet, parce que j'ai une idée en tête. Je démarre souvent d'idées d'associations de couleurs ou d'atmosphères. Et après, je mets tout en danger parce que je peux très bien aller vers autre chose, comme arriver à toucher, ça c'est rare, hein, arriver à toucher exactement ce que je voulais dire, raconter et montrer dans mes peintures. C'est pour ça que j'ai un rapport au grand format, à la matière. J'ai besoin de toucher, qu'il y ait de la matière. Et en même temps, c'est très léger, c'est très fin. Donc, il y a un peu deux mondes qui s'opposent. Une finesse et une matière un peu rugueuse.
Dans votre introduction à l'entrée de cette très, très belle exposition, vous avez dit... Mais c'est vrai. Vous avez dit que le paysage quitte le réel.
Oui, complètement, ouais.
Oui.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai régulièrement besoin d'avoir une ligne d'horizon. Peut-être pour justement un peu comme s'accrocher, comme si je m'hameçonnais ou je m'accrochais, je m'ancrais. Et je veux rester ancrée dans le sol, dans la terre. Il y a ce rapport entre terre et ciel. Voilà.
Alors, nous sommes, et tout le monde le sait, nous sommes à Patrimoine, hein, sur le vignoble d'Henri Orenga. Et alors, justement, vous êtes une paysagère, vous essayez de, de capter quand même. Alors comment
ce
vous
qui
vivez
ouais.
ce qui vous entoure là, là.
Alors j'habite dans cette région en plus, donc pour moi c'est que hiver comme été ou au printemps, le matin comme le soir, c'est une région qui est très jolie, qui est très agréable. Il y a des montagnes calcaires, des coteaux calcaires qui nous entourent. Le Nebbiou, c'est une couronne. Et on est accroché et par les pointes de montagne, de crête, et par les collines, et par les vignobles, et par ces champs un peu sauvages, arides.
Alors, dans vos paysages, il y a effectivement le côté aussi géologique. Mais il y a, surtout la poésie. Je trouve que, le mouvement, le bonheur de l'air
oui, c'est vrai.
Pur ou moins pur maintenant. Bon, mais disons que...
On va espérer qu'il reste pur un peu, surtout chez nous.
Dans la région, je pense que c'est possible.
Oui, c'est possible.
Donc voilà.
Oui, je parle d'air, ouais. Je parle de quelque chose qui n'est pas perceptible, qui se ressent.
Oui.
Et c'est ce que j'essaye de mettre à travers de faire ressentir à travers ma peinture.
Une dernière petite question sur les titres. Est-ce qu'ils sont importants, les titres, ou alors bon...
Oui, je marche beaucoup avec les mots. Les mots me font avancer par période, pas tout le temps, pas autant que les couleurs, pas autant que les images et les idées, mais les mots me font avancer, ouais. Il y a comme des petits ricochets avec les mots.
Allez, j'ai dit une dernière question, mais il va en arriver une autre. C'est votre formation, les Beaux-Arts.
Oui, les Beaux-Arts de Paris, alors, il y a un moment maintenant. Hein.
Oui, bien sûr, bien entendu. Mais vous avez quitté les Beaux-Arts, donc il y a très longtemps, ça va de soi. Mais qu'est-ce que vous avez gardé de cet enseignement ?
Qu'est-ce que j'ai gardé de cet enseignement ? Des moments magiques et magistraux. Que je souhaite à tout le monde, toute personne qui aime la peinture, la sculpture, même le son, le multimédia, c'était une école qui était, était riche. C'est un enseignement qui était riche. Qu'est-ce que j'en garde ? Peut-être ce côté un peu classique, finalement.
Oui.
Respectueux.
Oui, un respect, évidemment.
Finalement, un peu des techniques anciennes. Parce que je tends encore mes toiles, je fais mes couleurs, voilà.
Il y a un artisanat.
Il y a un artisanat de l'art, en fait. Un artisanat de l'art, et c'est comme une mise en œuvre. C'est pas une toile qu'on va acheter et sur laquelle on va se défouler et jeter des couleurs comme ça sorties du tube. Non, moi j'ai tout un travail avant.
Je vous invite à venir voir ce travail, cette poésie, cette beauté, parce que le mot travail peut être quelque chose d'un petit peu froid, mais cette exposition est vraiment très très chaude et elle est très belle.
Merci.
Stonda di Spartira e di Cultura, une émission d'André Casabianca.
Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec nous sur TPS et Radio Corse Internationale. Et puis on se retrouve demain matin si vous voulez bien. Tenez de volta, domani.
Bonjour, salut à tous.
All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio
Corsica.
vittime d'altri campà. Non c'è una verità, quella di un tempo mi passa. Va la va, alla bene un'infedeltà, fa l'amore su un'ia. Carria galinca così dalla va, ritorne l'entra la la, ti senti ben fatti vivo. Girando la possalta, io via tra il mare di gioia sul ca, vai come la di va, ti senti ben l'alma villa. Caucho d'Uruguay, o dopo un paio di guai, l'orizzonte oramai. Corre di festa, cavalieri le grande tundra, notte di festa, e di perestroica ti va stato mandato. Hey, balli. Carria galinca così dalla va, ritorne l'entra la la, ti senti ben fatti vivo. Girando la possalta, io via tra il mare di gioia sul ca, vai come la di va, ti senti ben l'alma villa. Girando la possalta, tra il mare di gioia sul ca, vai come la di va, ti senti bene l'alma viva.
Casimir, au studio Gecko sur l'île de Beauté. Vous cherchez Freddy et Christophe? Ils sont pas là, ils sont à la plage. Ils mangent du gloubi boulga avec les enfants. Au revoir.
Salute, si da un studio geco, circa di Afredi e Cristovano, non ci sono mica, so faladia marina, sciacca son glubi bulgadulu, cui zidelli, a pedeci.
Dall'ascolto di Radio Corsica Internazionale a Ultra Web Radio.
A te la Corsica regina. In tara i Corsica la sada d'unisce la gente. Per un abbraccio comuno che saranno asumente.
Popolo vivo, popolo corso, canta la lotta di indipendenza. La 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 la.
Dall'ascolto di un programma musicale di RCI a Ultra Web Radio Corsa.